week-end et on se dit à lundi, Ouma.
À lundi.
Merci. Manuela Eicher est notre dernière grande invitée de l'année 2017, professeure associée à la faculté de biologie et de médecine au sein de l'IUFRS, c'est l'Institut Universitaire de Formation et de Recherche en Soins à Lausanne. Alors avant de se pencher sur les formations qui sont proposées dans cet institut, on va faire plus en plus connaissance avec vous. Stéphane Delétrault, vous avez relevé les principaux éléments de la biographie de Manuela Eicher.
Voilà, Manuela Eicher, vous êtes suisse-allemande, mais vous voyez le jour en Allemagne. C'est juste que, au milieu des années 90, vous obtenez un diplôme d'infirmière en soins généraux à l'école Lindenhof de Berne, qui était à l'époque l'équivalent alémanique de la source. Vous vous spécialisez ensuite dans le VIH et partez quelques mois au Brésil. C'est une première expérience intéressante.
Oui, alors directement après mon diplôme, en fait, dans mes ambitions de jeunesse, je suis directement partie au Brésil. J'avais l'occasion de collaborer avec une association qui voulait fonder un hospice pour des patients les plus démunis qui venaient en fait des rues de São Paulo, qui étaient dans un stade avancé ou même terminal du VIH, alors du sida. Et puis on leur a offert la possibilité de passer cette phase terminale dans une zone protégée, en étroite collaboration avec l'hôpital pour les maladies infectieuses, avec lesquels on a établi une collaboration pour bien soigner les patients.
Alors la suite de vos études se fera en Allemagne, près de Dortmund, à l'université Wittenherdecke, où vous obtiendrez successivement un bachelor, un master, puis un doctorat en sciences de la santé, orienté sur les sciences infirmières. Wittenherdecke, c'est une université très particulière.
Oui, alors c'est une université privée, et puis avec un petit nombre d'étudiants. Ce qui était la particularité qui m'a beaucoup attirée, c'était la possibilité d'avoir le studium fondamental. Ça veut dire un jour par semaine, on mixait tous les facultés, tous les étudiants de tous les différents semestres. Et c'était un énorme plaisir d'interpréter un bleu de Yves Klein avec des étudiants d'économie, des étudiants des sciences infirmières et des étudiants en médecine, des étudiants en art, de voir un peu les perspectives croisées sur un Yves Klein blanc.
Génial ça. Ouais. Je pense que ce sera appliqué dans d'autres unis.
C'était repris par plusieurs universités d'ailleurs. Ouais.
Alors votre centre d'intérêt après le master, ce sera, et c'est toujours, l'oncologie, et plus précisément le cancer du sein. Vous développez le rôle d'infirmière référente.
Alors, au début, oui, j'étais collaboratrice scientifique à l'hôpital de Lille pendant 8 ans et au début de ma carrière là-bas, j'ai eu l'occasion de développer ce rôle de l'infirmière référente du cancer du sein. C'était les centres du sein qui étaient les premiers centres à développer une approche multidisciplinaire pour vraiment encadrer les patients, pour proposer les meilleures thérapies, mais aussi les meilleurs soins. Et cette infirmière référente, elle a le rôle de vraiment accompagner la patiente durant tout le processus, en fait, toute son trajectoire de la maladie. Et ça n'existait pas à cette époque en Suisse. Et puis Genève et Berne étaient les premiers à le développer. Et j'ai pu faire mon doctorat avec le développement de ce rôle.
Donc ça, c'était à l'Inselspital, oui, à Berne. Et puis ce sera ensuite l'Institut de sciences infirmières à Bâle, avant de rejoindre la Haute École de Santé de Fribourg comme doyenne de la recherche appliquée et du développement. Vous précisez encore que vous êtes l'auteur de nombreux articles dans la presse scientifique et d'un livre sur les soins infirmiers spécialisés pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Et vous présidez le groupe de travail soins de soutien et palliatifs pour cancéreux du groupe suisse de recherche clinique sur le cancer. Et ça, finalement, ça n'est pas anodin.
Voilà, mais je crois que ça montre bien comment on évolue actuellement dans le système de santé. Parce que, alors j'ai été appelée par ce groupe pour prendre la présidence. C'est la première fois qu'une infirmière, en fait, est présidente d'un working group à la SAKK, qui organise des recherches cliniques dans le domaine de l'oncologie en Suisse. Mais je crois que c'est une évolution qu'on voit dans beaucoup de domaines maintenant qui juste illustre bien les approches interprofessionnelles qu'il faut établir aujourd'hui pour répondre aux besoins de nos patients et de la population en fait.
Voilà, et puis pour signaler, je dis encore 2 choses pour terminer juste cette brève présentation, vous êtes mère de 2 enfants, et signaler également que vous vous occupez de recherche et d'encadrement de doctorants à l'université de Sydney.
Également, oui, comme j'ai établi une collaboration qui d'ailleurs a débuté pendant des vacances, j'ai l'occasion de collaborer avec ma collègue Kate White, qui est professeure aussi en sciences infirmières spécialisée en oncologie, et actuellement on encadre des doctorants qui s'intéressent pour la résidence résilience des patients atteints de maladies cancéreuses.
Manuela Eicher, on en vient à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins, où vous êtes donc professeur associé. Quelle est la mission de cet institut ?
Voilà, comme dit déjà le titre long de cet institut. Alors, d'un côté, on offre des études au niveau master et au niveau doctorat, mais de l'autre côté, bien sûr, on a aussi la mission de faire des recherches particulièrement pour le domaine des soins infirmiers.
Oui. Des recherches sur quatre axes ?
Alors, quatre axes, c'est un peu difficile de parce qu'on est en croissance, là, énorme. Et puis, en fait, ce qu'on peut dire qu'actuellement, on a les deux extrémités de l'âge qui nous intéressent particulièrement. C'est la périnatalité, avec professeur Antje Horch, qui fait des recherches dans ce domaine-là, et l'enfance, la néonatologie, la pédiatrie, avec la professeure Anne-Sylvie Ramelet. Et de l'autre côté, on a l'âge et le vieillissement où il y a Cédric Mabir et Claudia Ortoleva-Boucher qui sont des experts dans des recherches en gériatrie. En
fait. Donc toutes des infirmières et des infirmiers ?
Toutes des infirmières et des infirmiers, sauf professeur Antje Horch qui est psychologue, mais on est en train de la nursifier, si je peux le dire comme ça.
Puis peut-être une précision et un constat utile avant de parler de pratiques infirmières avancées. On met durant cette heure tout ça, tous ces termes au féminin, donc on va parler d'infirmière durant cette heure, parce que en fait la profession elle est aujourd'hui encore essentiellement féminine.
Elle est essentiellement féminine, et si on regarde aussi au niveau de la formation, au niveau bachelor, aujourd'hui c'est 15% à peu près des étudiants qui sont des hommes. Mais on voit quand même une croissance, parce qu'avant qu'on avait le bachelor, il y en avait moins d'hommes. Et ce qui est aussi intéressant, qu'au niveau master, on a presque 25% de nos étudiants qui sont des hommes. Alors on est une profession féminine, oui, mais on a quand même de la place pour l'autre genre.
Et puis, donc voilà, ça c'est pour la précision. Pour le constat, on vit de plus en plus vieux. Avec ce changement démographique, les maladies chroniques sont désormais au centre de la prise en charge du travail des infirmières.
Oui, c'est une de nos préoccupations majeures, parce qu'en Suisse, déjà aujourd'hui, 2,2 millions de personnes souffrent d'une affection chronique, et près de 20% de la population de plus que 50 ans sont atteints de maladies chroniques multiples, déjà à ce jour. Avec l'évolution démographique, on peut s'y imaginer qu'on aura de plus en plus besoin des nouveaux modèles de prise en charge pour répondre aux besoins de ces patients qui doivent vivre avec une maladie qu'on ne peut jamais guérir, probablement.
Et donc, quand vous dites que vous faites de la recherche, c'est ça, c'est pour travailler sur ces nouveaux modèles de prise en charge, notamment ?
Et particulièrement avec un focus sur comment les infirmières peuvent contribuer à répondre aux besoins des patients atteints de maladies chroniques.
Voilà, donc revoir le rôle de l'infirmière, je schématise, elle n'est plus une simple auxiliaire du médecin, l'idée c'est bien de lui confier finalement une partie des fonctions qui étaient jusque-là traditionnellement réservées aux médecins.
Alors là Stéphane, vous me provoquez un tout petit peu si vous parlez des auxiliaires, parce qu'en fait si on regarde un peu en arrière dans le temps, Florence Nightingale, c'était quand même la première dans le système de santé à faire des études épidémiologiques. Si elle aurait été auxiliaire, elle n'aurait jamais pu diminuer la mortalité des soldats dans la guerre de Crimée. Et si on regarde aujourd'hui la loi de la santé du canton de Vaud, des fonctions qui sont définies déjà pour les soins infirmiers, il y a quand même la majorité de ces fonctions qui se passent en autonomie. Alors, je ne crois pas qu'on peut parler du constat, partir du constat que les infirmières ils quittent maintenant ces rôles d'auxiliaires, mais c'est plutôt d'élargir le champ de compétences et aussi le champ de pratique.
Et donc vous piquez un peu du boulot aux médecins ?
Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, alors je crois avec l'évolution démographique, on aura tous trop de travail et on doit maintenant former beaucoup plus de professionnels de santé pour pouvoir répondre à ces défis-là. La question c'est comment meilleur répartir le travail pour le bien-être de la population suisse, en fait.
Est-ce que c'est justement cette répartition permettrait par exemple à l'infirmière de poser un diagnostic et de prescrire des médicaments, ou légalement ça ce n'est toujours pas possible ?
Alors là, il faut bien distinguer de quelle infirmière on parle. Il y a beaucoup de rôles des infirmières où ce rôle n'est pas fait et pas pensé pour prescrire des médicaments ou pour poser des diagnostics. Là, actuellement, on a le débat politique et on a un changement de loi et je crois qu'on va encore en parler un peu plus de ça, qui va permettre à des infirmières formées au niveau master, avec une formation qui dépasse ce qu'on a offert jusqu'à aujourd'hui, de prescrire et de diagnostiquer, mais toujours dans un champ bien défini et toujours dans une collaboration interprofessionnelle étroite, une collaboration particulièrement en partenariat avec des médecins.
Alors, on dit le cadre légal évolue, il y a la loi par exemple dans le canton de Vaud qui vient de changer, qui a été révisée. Au niveau fédéral, il y a une initiative intitulée pour des soins infirmiers forts qui a été déposée début novembre à la chancellerie. Son but c'était de valoriser la profession afin de faire face à la menace de pénurie de personnel soignant. Qu'est-ce qui explique cette pénurie finalement? C'est quoi la charge de travail, les horaires, le salaire
Alors tout d'abord, je crois que c'est juste tout simplement la croissance des besoins en soins qui explique tout cela. Et on sait que déjà à ce jour, on ne forme probablement moins que la moitié du personnel soignant. Moins de la moitié. Il y a le rapport de l'Obsan qui a bien constaté qu'on doit maintenant augmenter fortement le nombre des infirmières formées pour répondre aux besoins existants et futurs.
Il y a du boulot, il y a des enjeux. Manuela Aichère, vous êtes notre grande invitée aujourd'hui. Dans un instant, nous verrons que le métier d'infirmier-infirmière se spécialise de toujours plus, hein, et nous verrons de quelle manière.
CQFD, votre émission de science et de santé.
Oula, quoi cette jolie bouche, oh là là. Faut surtout pas qu'on se touche, qu'on s'effleure. Écoutons voler les mouches. Oula, c'est quoi ce regard louche, oh là là. J'entends mon cœur qui tousse, j'ai pas peur. Je reste sur la touche. Tout le monde le cherche, trop peu le trouvent. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou d'un sourire soudain, d'une main qui se pose, même si demain possible et qui m'ose. Toi et moi, faut surtout pas qu'on se pose, qu'on s'assoit, qu'on voit la vie en rose, qu'on s'adore. Qu'on se voit aux heures de pause. Oula, c'est quoi ce froid bizarre? Ces frissons, ces grands papillons noirs, ceux qui vont, ce grand bazar. Tout le monde le cherche, trop peu le trouve. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou. D'un sourire soudain, d'une main qui se pose, même si demain possible et qui m'ose. Tout le monde le cherche, trop peu le trouve. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou. D'un sourire soudain, d'une main qui se pose. C'est demain possible et qu'il m'ose. D'un sourire soudain, d'une main qui se pose. Même si demain possible et qu'il m'ose. Cette jolie bouche, oh là là. Faut surtout pas qu'on se touche, qu'on s'effleure. Écoutons voler les mouches.
Louane Ekimo, c'était une chanson écrite par Benjamin Biolay.
Infotrafic RTS.
Prudence sur l'autoroute Fribourg-Vevey. Un chargement de gravier a été perdu sur la voie d'entrée autoroutière de Matran en direction de Vevey. Les questions de soins infirmiers ce matin avec notre grande invitée Manuela Eicher, professeure associée à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins. On va en venir à deux formations en développement proposées au cœur de l'Institut dans lequel vous officiez, l'infirmière clinicienne spécialisée et l'infirmière praticienne spécialisée, Stéphane Delétro.
On va peut-être commencer par infirmière praticienne spécialisée. La référence, Manuela Eicher, c'est le modèle anglo-saxon. Que peut faire cette infirmière praticienne spécialisée anglo-saxonne?
Voilà, alors cette infirmière praticienne spécialisée, c'est une personne qui a une formation au niveau master et qui lui permet d'assumer dans son champ de compétences, mais de manière autonome, des responsabilités qui traditionnellement étaient plutôt liées à un rôle d'un médecin. Ça veut dire qu'elle peut prescrire, interpréter des tests diagnostiques, elle peut effectuer des actes médicaux et prescrire des médicaments aussi et assurer le suivi et les ajustements.
Alors, spécialité anglo-saxonne en Suisse, c'est quelque chose, c'est une chose vers laquelle on va tendre.
Voilà, alors ce que je viens de dire, c'est quand même inscrit dans l'article 124 bis qui va maintenant être mis en vigueur au canton de Vaud. Ça veut dire c'est un modèle qui a déjà fait ses preuves dans le monde anglo-saxon et aussi en Scandinavie d'ailleurs et dans les pays asiatiques, mais qui va probablement aussi voir le jour maintenant en Suisse.
Voilà, donc ça c'est infirmière praticienne spécialisée.
Tout à fait.
Quelle est la différence avec une infirmière clinicienne spécialisée?
Alors, l'infirmière praticienne spécialisée, elle consulte des patients principalement. Bien sûr, elle va aussi contribuer à l'amélioration de la qualité dans son champ de compétences, mais la clinicienne spécialisée, c'est les infirmières qu'on forme aujourd'hui au niveau master à l'UFRS. Elle a vraiment la responsabilité de travailler avec des équipes soignantes pour veiller que la qualité de soins soit assurée et la sécurité des patients également. Ça veut dire qu'elle contribue par exemple à la rédaction des guidelines pour assurer que les nouvelles évidences soient accessibles pour la pratique et elle accompagne ses équipes pour appliquer ces nouvelles connaissances également.
Donc l'idée, si je vous ai bien compris, c'est de fournir des meilleurs soins grâce à la mise en pratique des résultats de la recherche.
Tout à fait. C'est ça la logique. Et puis, pour le faire, ces cliniciens spécialisés, ils peuvent d'ailleurs aussi participer à des recherches.
Parce qu'ils passent souvent beaucoup de temps, finalement, entre le résultat d'une recherche, comme on peut l'annoncer ici, dans notre émission, et puis le moment où ces recherches-là sont mises en pratique.
Voilà. Alors, il y a des études qui ont montré qu'il y a un décalage de à peu près 13 à 15 ans jusqu'à ce que les nouveaux résultats de recherche soient appliqués en pratique.
C'est beaucoup, effectivement.
Ouais. Alors, ouais. Il nous faut des agents changement qui facilitent en fait ce transfert vers la pratique.
Combien dénombre-t-on en Suisse romande d'infirmières cliniciennes spécialisées?
Alors, à ce jour, on a 140, à peu près 140 étudiants qui ont terminé ces études à l'UFRS. Et puis, actuellement, on a 70 étudiants quand même qui font les études. Alors, vous voyez aussi leur croissance parce que l'UFRS existe déjà depuis 10 ans maintenant.
Oui. Ouais. Et elles trouvent tout de suite du travail. Voilà, les centres de soins, les hôpitaux sont déjà organisés pour accueillir
ces... Alors, ce qu'on peut observer, parce qu'on fait des évaluations de la poursuite en fait de carrière de ces étudiants, il y a une grande partie qui au début était tout de suite active dans les autres écoles, parce que pour former au niveau bachelor il faut un master idéalement. Alors là on a beaucoup de nos étudiants qui sont aussi retournés dans les autres écoles pour la formation, mais de plus en plus on voit maintenant que les hôpitaux universitaires tout d'abord, mais aussi maintenant de plus en plus d'autres établissements de santé engagent ces cliniciennes spécialisées pour qu'ils veillent au développement de la qualité.
Alors cette infirmière, elle est généralement spécialisée dans un domaine précis ?
Oui, alors ça c'est la logique en fait. Cette infirmière clinicienne spécialisée, vous pouvez vous imaginer, à ce jour, on a à peu près 80 000 infirmières en Suisse. Et puis, pour pouvoir veiller que les nouvelles connaissances soient appliquées en pratique, elle ne peut pas le faire pour tous les différents domaines. Alors, elle peut se spécialiser soit en gériatrie, soit en oncologie, soit en médecine interne. Il y a différents champs, mais c'est la logique en fait que pendant le cursus master, master, ces infirmières se spécialisent dans un domaine spécifique.
Et puis c'est quelque chose qui peut paraître assez étonnant par rapport à l'infirmière, je vais mettre entre guillemets classique, l'infirmière spécialisée, elle a souvent des patients attitrés et même des consultations.
Oui, alors, mais ça, il faut aussi voir qu'on a quand même dans les infirmières classiques beaucoup d'infirmières qui se spécialisent dans un domaine et qui peuvent aussi faire des consultations de plaies, par exemple. Par contre, la logique des cliniciennes spécialisées serait qu'elles sont vraiment les experts du domaine, ça veut dire les cas les plus complexes sont pris en charge par elles, et puis elles offrent des consultations pour bien comprendre cette complexité et en concertation avec l'équipe interprofessionnelle, proposer les meilleures solutions.
Parmi leur rôle, assurer également l'éducation thérapeutique du patient?
Tout à fait. Ça fait une grande partie. Et puis, on voit d'ailleurs dans beaucoup d'études que là, les infirmières spécialisées sont très, très efficaces.
L'éducation thérapeutique, ça veut dire nous aider, nous, les patients, à mieux comprendre notre maladie,
oui.
Les traitements qu'on nous propose.
Ça comprend tout d'abord ce que vous évoquez, mais aussi apprendre à communiquer avec les professionnels de santé, mm-hmm. les préparer à la prochaine consultation avec le médecin, par exemple. Mais souvent, c'est aussi répéter des informations et les traduire dans un langage peut-être plus facile pour qu'ils peuvent vraiment intégrer ce qui était discuté lors des consultations avec les médecins.
Mais donc, vous traduisez le charabia des médecins, en gros, c'est ça?
Ouais, non, c'est pas seulement le rôle de l'infirmière spécialisée, ça, c'est des cliniciens spécialisés. Par contre, c'est clair que dans les consultations qui, de plus en plus, les médecins ont peu ou moins de temps pour consulter les patients, il faut répétitivement accompagner les patients, particulièrement dans une situation de maladie chronique, de bien comprendre la maladie, les traitements, et puis aussi interpréter les symptômes qui peuvent éprouver pour savoir est-ce que je dois me référer au médecin, est-ce que je peux gérer moi-même. Et ça, tout ce soutien-là se sous-comprend dans l'éducation thérapeutique.
Donc ce sont elles aussi qui doivent juger de la qualité des recherches pour ensuite pouvoir transposer ces nouveaux savoirs dans la pratique. Et puis peut-être aussi, ça fait partie de leur rôle de susciter de nouvelles études.
Tout à fait. Alors, et c'est à cause de ça qu'une grande partie, en fait, du parcours master en sciences infirmiers s'adresse aussi à des compétences en recherche. Les étudiants font des études de master où ils font une fois tout le processus de recherche pour bien comprendre comment et pourquoi on fait des recherches, et ça peut les mettre dans les possibilités de même proposer des sujets de recherche qu'on devrait poursuivre.
Donc il faudrait davantage d'infirmières et infirmiers spécialisés, hein, à vous entendre évidemment.
Et les cliniciennes spécialisées, parce que les infirmières spécialisées, on les a déjà depuis longtemps. Les cliniciennes spécialisées, maintenant ce nouveau rôle, il nous aiderait vraiment d'entrer dans un fonctionnement de evidence-based practice et de développement de qualité.
Mais on a les moyens de se payer, entre guillemets, parce qu'évidemment, elles vont être mieux payées, j'imagine.
Il faudrait plutôt poser la question, est-ce qu'on a les moyens de ne pas les former et engager? Parce que s'ils veillent sur la qualité des soins, ça veut dire qu'ils vont aussi veiller qu'on ne fait pas de waste, comme on dit en anglais, qu'on n'applique pas des pratiques qu'on ne devrait plus appliquer parce qu'ils n'ont prouvé aucune évidence. Et ça, déjà, en soi, pourrait nous épargner beaucoup d'argent ou point de vue économique. Ça peut aussi diminuer beaucoup de charges pour les patients, en fait.
Vous avez évoqué la question de l'evidence-based, c'est-à-dire la médecine basée sur la science. Est-ce qu'il a été démontré scientifiquement les bénéfices finalement de ce type d'intervention de ces cliniciennes spécialisées?
Oui, c'est très intéressant. Je crois qu'il n'y a aucune profession où il y a autant d'études et méta-analyses qui étaient publiées pour prouver ou pour démontrer l'efficacité et la plus-value de ce nouveau rôle. Mais en fait, pour les cliniciennes spécialisées et pour les praticiens, les infirmières praticiens, on a une multitude d'études qui montrent la plus-value de ces nouvelles rôles dans le domaine des soins infirmiers.
D'accord. Vous avez des exemples, notamment, on peut en prendre un, je crois, en Suède, lorsqu'on préparait cette émission, vous avez parlé d'un exemple suédois.
Oui, alors ça c'est un exemple qui est très joli, parce qu'en fait, à partir d'une étude randomisée où des patients avaient accès ou non à une consultation qui était gérée par des infirmières avant le retour à domicile, après des problèmes cardiaques, ils ont pu démontrer que les insuffisances cardiaques était beaucoup mieux géré par les patients. Ils exprimaient qu'ils avaient beaucoup plus de compétences en autogestion, mais on voyait aussi que les patients qui avaient accès à cette consultation avaient une mortalité diminuée et une morbidité diminuée. Ça fait que dans toute la Suède, depuis 10 ans, cette consultation est offerte à tous les patients avec des insuffisances cardiaques dans le système public.
Il faut davantage d'infirmiers, d'infirmières, c'est un peu votre credo, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, Manuela Eicher. C'est un plaisir de passer cette heure avec vous, vous êtes en direct avec nous dans CQFD jusqu'à 11h. Vous aimez David Bowie ?
Oui,
beaucoup. Vous êtes une amatrice de musique.
Et particulièrement ma fille Lily, elle est amatrice de David Bowie depuis l'âge de 2 ans.
C'est vrai ? Oui. 2 ans élevée avec... Oh, alors c'est un joli biberon.
Elle dansait sur David Bowie, ce qui était assez particulier.
Elle s'appelle comment, Lily, vous dites ?
Lily.
On la salue.
Et je la salue bien.
Bah oui, on la salue et on lui offre donc David Bowie, Ashes to Ashes. Il est 10h38, c'est la première. C'est la première CQFD, votre émission de science et de santé. Nous allons prendre des nouvelles du trafic.
Infotrafic RTS.
Une information qui concerne le trafic ferroviaire sur la ligne Genève-Lausanne. Le tronçon Genève-Copé est toujours partiellement fermé. Les trains Intercity et Interregio sont supprimés. Les liaisons entre Copé et Lausanne se font par Régio Express. Et puis prudence sur l'autoroute Fribourg-Vevey. Un chargement de gravier a été perdu sur la voie d'entrée autoroutière de Matran en direction de Vevey. Manuela Aicher, professeure associée à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins à Lausanne, est notre grande invitée aujourd'hui. Le temps passe très vite. Pour terminer cette heure passée avec vous, on va parler de vos recherches. Vous les menez notamment avec l'équipe du professeur Koukos et Pascale Castellani, la directrice des soins du département d'oncologie. Vous êtes un cas unique, hein, je crois, en Suisse.
En tout cas, oui, j'ai ce rôle d'infirmière consultante en recherche et puis je connais personne d'autre qui a ce rôle. Mais c'est quand même ces collaborations entre un institut qui fait la recherche et la formation et les lieux pratiques se créent de plus en plus. Alors nous, on a plusieurs partenariats de ce genre à l'UFRS, avec la pédiatrie notamment aussi. Et ça nous permet de rester au plus proche possible avec nos partenaires cliniques, en fait, et pour être orientés dans nos recherches aux besoins réels de la pratique. En fait.
Alors il y a une autre personne avec qui vous faites des recherches et qui est avec nous par téléphone. Il s'agit de Claudia Mazzocato. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Manuela.
Bonjour Claudia.
Vous êtes médecin-chef au service de soins palliatifs du CHUV. Vous travaillez donc effectivement ensemble sur le développement d'un care board. Qu'est-ce que c'est un care board?
Alors, écoutez, c'est encore une fois l'intérêt de le travail que fait Manuela Aicher, c'est qu'elle part du terrain et de la réalité du terrain pour essayer ensuite de développer des projets de recherche. Donc un care board, c'est une réunion régulière, hebdomadaire ou une fois toutes les deux semaines qui réunit à la fois des médecins oncologues, mais également d'autres professionnels qui peuvent participer vraiment à la qualité de vie des patients. Donc il y a les palliativistes, il y a les nutritionnistes, les psycho-oncologues, les assistants sociaux. Et l'idée vraiment, c'est d'aborder des situations complexes que vivent nos patients avec les regards de différents professionnels pour mettre ensemble nos compétences et offrir une meilleure prise en charge.
Mmh. Manuela Aicher.
Voilà. Oui, chère Claudia, il y a bien sûr aussi les infirmières qui participent au
Care Board. Évidemment. Merci, Manuela, merci.
Elle vous surveille de près.
Hein. Elle a raison.
Il y a des craintes légitimes qui se manifestent chez quasi tous les patients atteints de cancer et qui peuvent être source d'angoisse.
Alors oui, je dirais que les besoins des personnes atteintes d'un cancer, mais c'est vrai aussi, simplement on n'est pas encore assez avancé dans d'autres pathologies, mais des gens qui ont des insuffisances cardiaques, des problèmes rénaux, etc., on va avoir effectivement des problématiques liées à la maladie elle-même, mais, et c'est parce que c'est notre nature humaine, hein, on va avoir aussi des inquiétudes, des angoisses, est-ce que la maladie progresse, comment je vais faire face, des problèmes financiers, parce que c'est pas bien d'être malade dans notre société, ça coûte cher, mais aussi peut-être des problèmes familiaux, de communication, etc. Donc, ou des grandes questions existentielles aussi. Donc c'est vrai que nos patients, hormis le problème même de la maladie qu'ils doivent traverser avec les conséquences sur leur corps physique, ont sur le plan psychologique, sur le plan de la communauté, sur le plan existentiel, énormément de questionnements, parfois des défis, des challenges. Et si on veut vraiment les aider et les accompagner, on ne doit pas seulement soigner la maladie, mais s'occuper de tout ce qui est autour, qui est de l'ordre de leur vie.
D'où l'importance de réunir tous ces professionnels.
Exact.
Il y a également un autre projet sur lequel vous vous retrouvez, il concerne la méditation pleine conscience.
Elle vous a parlé déjà de beaucoup de choses, oui. Oui, vous savez, c'est très à la mode, la méditation de pleine conscience, mais c'est peut-être bien qu'elle soit à la mode, dans le sens où, finalement, il y a passablement de travaux qui ont d'ailleurs démarré aux États-Unis, qui ont démontré des bénéfices de ce type d'approche non médicamenteuse, donc ça c'est aussi un plus, hein, sur la qualité de vie des patients atteints de différentes maladies, notamment la dépression, mais aussi les problèmes d'addiction, les problèmes d'anxiété, etc. Et on commence à voir des travaux maintenant dans certaines populations des patients atteints de cancer, Et l'idée, c'est vraiment de voir, de tester, d'explorer dans notre contexte culturel, dans notre environnement particulier, si les patients peuvent tirer des bénéfices de cet ordre-là sur un plan de recherche. Parce que sur le plan individuel, moi je le vois parce que j'ai passablement patients atteints notamment de douleurs chroniques qui ont fait des démarches sur le plan personnel et qui en bénéficient vraiment.
Juste une question peut-être, Claudio Mazzucato, une question d'image. Je dois dire que lorsqu'on parle de soins palliatifs, a priori on se dit que si on a affaire à vous, c'est que ça va pas très bien et...
Et que la
c'est
fin
plutôt
n'est
la solution finale,
ça.
Voilà.
Écoutez, ça a été, c'est encore un peu le cas, malheureusement. C'est lié à l'historique des soins palliatifs qui, lorsqu'ils ont commencé à se développer dans les années 60, s'intéressaient uniquement aux patients. Enfin, c'était l'urgence, hein. C'est pas qu'ils voulaient pas s'intéresser aux autres, mais ils étaient focalisés sur les patients atteints d'un cancer en fin de vie. On voit que les besoins sont beaucoup plus précoces que même des personnes atteintes d'un cancer ou d'une autre maladie, parce qu'encore une fois, c'est pas réservé au cancer, peuvent bénéficier de l'intervention des soins palliatifs en phase curative ou en phase de rémission. Donc voilà, oui, c'est un de nos grands challenges, c'est d'essayer de modifier cette image un petit peu des oiseaux qui annoncent la mort. Hein. Et c'est pour ça que dans le cadre, par exemple, du service d'oncologie du CHUV, on travaille de manière très proche des médecins oncologues en binôme et qu'ils me demandent d'intervenir non pas en fonction d'un pronostic, mais de besoin.
Ouais.
Et finalement, ce qui doit déterminer l'intervention des soins palliatifs, et on leur donne aussi maintenant cette terminologie de soins de support pour être un peu moins effrayant. L'idée, c'est vraiment que ce qui détermine l'intervention de cette équipe-là, c'est le besoin des patients, le besoin des proches et les besoins aussi des équipes, parce qu'elles vivent aussi des choses difficiles et que d'avoir à leur côté d'autres professionnels qui les soutiennent peut être utile.
Merci Claudia Mazzucato d'être venue aujourd'hui dans CQFD, médecin-chef du service des soins palliatifs du CHUV. Vous travaillez en étroite collaboration avec Manuela Escher, c'est pour ça qu'on souhaitait vous entendre quelques minutes. On vous souhaite une belle suite de journée.
Merci Claudia.
C'était un plaisir et bonne fête à tout le monde.
C'est très gentil. Manuela Escher, parmi tous vos projets, on va parler rapidement de trois. On commence par un système de navigation testé actuellement pour gérer les symptômes à domicile. Racontez-nous.
Alors, ça c'est une collègue de moi, Suzanne Kropf, qui est infirmière en oncologie à Berne, partager son souci avec nous, que les patients, en fait, ils reçoivent énormément d'informations, mais souvent pas ciblées sur leurs besoins spécifiques. Alors, elle voulait développer des flyers qui sont ciblés sur un symptôme propre. Comme ça, on peut informer vraiment sur le problème que le patient il a. Et ça fait que pendant 5 ans maintenant, on a développé le Symptom Navi Program qui combine en fait une formation pour les infirmières, comment travailler avec ces flyers, parce qu'on veut les appliquer d'une manière qui serait la logique de l'éducation thérapeutique, on avait parlé de ça, mais qui comprend aussi 16 flyers par rapport aux symptômes les plus fréquents que les patients peuvent éprouver quand ils sont sous traitement oncologique en fait.
On peut imaginer qu'à terme ou assez rapidement, vous allez passer du flyer au smartphone?
Voilà, alors on est en train de développer un outil qui serait en fait un e-tool qui peut être utilisé par des smartphones ou autres outils électroniques. Par contre, je dois aussi dire que tout ça, c'est en phase test actuellement parce qu'on veut assurer que ça peut être appliqué par tous les patients, mais d'une manière qui respecte quand même la sécurité de patients. Mmh. Alors, on a 9 centres oncologiques actuellement, et je m'excuse, dans la partie germanophone de la Suisse, qui teste l'outil avec des patients pour savoir est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser tel qu'il était conçu et sans mettre des patients dans des situations de difficulté.
Autre outil, un outil d'aide à la décision dont les tests débuteront tout prochainement, je crois en début d'année prochaine. Il s'agit de, cette fois-ci, mesurer les besoins en soins infirmiers des patients.
Voilà, on a parlé de la croissance des maladies chroniques et ça s'applique aussi pour le cancer. Hein. Nous tous, on sera touchés par un cancer, soit nous-mêmes, soit par nos proches. Et ça veut dire qu'on doit probablement soigner beaucoup plus dans le futur. Alors, on a traduit un outil qui s'appelle Oncology Acuity Tool, qui était développé aux États-Unis pour mesurer les besoins en soins, en fait, des patients oncologiques dans le milieu hospitalier. Et puis, on a maintenant une collaboration avec 3 centres oncologiques où on va appliquer ces mesures pour d'abord, pour la première fois, décrire les besoins en soins des patients oncologiques en Suisse romande, mais aussi pour savoir est-ce que cet outil pourrait être un outil utile pour les équipes pour répartir la charge de travail. Parce que, en fait, vous avez un nombre d'infirmières à disposition, mais après, c'est aussi la question qui prend qui. Et tout ça se base, bien sûr, sur une estimation des besoins de ces patients pour le prochain horaire, en fait.
Alors, pour terminer, un programme en développement destiné aux femmes qui ont eu ou auront un cancer du sein, des femmes qui vivent finalement une situation difficile et très difficile, même une fois passée la phase aiguë des traitements.
Oui, tout à fait. Alors là, je me réjouis beaucoup qu'on a pu, dans le cadre de la stratégie nationale contre le cancer, développer un projet phare pour stimuler l'autogestion de la maladie et l'auto-efficacité des patients. C'est un programme qui est déjà connu pour des maladies chroniques, qui était initialement développé à Stanford, et avec un groupe qui comprend des patients, des proches et des professionnels de santé de toutes différentes disciplines, on a développé ce projet pour être plus adapté aux besoins des patients qui terminent les traitements initiaux après un cancer du sein. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est que le programme maintenant, il est formulé d'une manière que beaucoup de patients et aimés aussi, médecins et infirmières, nous donnent le retour qu'il est vraiment très proche de la réalité de tous les jours de ces patients qui, après que les traitements initiaux soient terminés, doivent vraiment apprendre à vivre avec c'est cette ça, maladie ouais. et de passer peut-être aussi à autre chose. Et là, on essaye vraiment de stimuler ces compétences en autogestion.
Donc, c'est leur proposer finalement un soutien psychologique et puis une aide très pratique
non,
et concrète.
La logique, elle va beaucoup plus loin parce qu'en fait, on forme des patients qui ont eu un cancer du sein d'appliquer un programme d'autogestion avec des patients qui ont un cancer du sein actuellement. On les suit très proches, ils ont un manuel, comment animer ce programme, mais c'est les patients qui restent entre eux. Et ils ne discutent pas le soutien psychologique, ils comprennent plutôt l'entraide entre eux, mais d'une manière très très structurée. Ils font du brainstorming, quelle pourrait être la meilleure solution pour gérer une fatigue. Ils font des propositions comment définir des objectifs atteignables. Vous connaissez ça. Si vous voulez commencer à faire du jogging, il ne faut pas se proposer ou de mettre l'objectif d'aller 3 fois par semaine pour 1 heure tout de suite. Et la même chose s'applique pour les patients qui doivent réapprendre à vivre après cette maladie et reprendre des forces en fait.
Manuela Aicher, professeure associée à la faculté de biologie et de médecine au sein de l'Institut universitaire de formation de recherche en soins de Lausanne. Merci d'être passée ce vendredi matin par CQFD. Vous étiez invitée par Stéphane Delettre. On souhaite de très belles fêtes.
Des belles fêtes à vous et j'espère qu'on va écouter maintenant Queen parce que ça c'est...
Ah, vous aimez bien Queen?
Non, c'est mon fils Oscar.
Ah, c'est votre fils. Ah oui, alors on n'avait pas pensé. On aurait dû vous demander des infos avant. C'est ça. Mais on va lui faire découvrir quelque chose parce qu'il y a Queen mais il y a plein d'autres choses. On va lui faire découvrir mais d'avant on prend des nouvelles de la route. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Infotrafic RTS.
Signalons que suite à un accident survenu à Aigle, l'entrée autoroutière a été fermée en direction de Vevey. Et puis sur l'autoroute Fribourg-Vevey, une perte de chargement provoque la fermeture de l'entrée de Matran.